Bonsoir. Dans son dernier rapport sur l'indice des perceptions de corruption pour l'année 2013, Transparency International place la RDC à la 154e position sur 177 pays classés. La RDC gagne donc 6 places par rapport au classement 2012. Quelle analyse faire de ces rapports et que faut-il pour renforcer la lutte contre la corruption en RDC? Nous en parlons avec Lucas Olo Fernandez. Il est coordinateur régional pour l'Afrique centrale des Transparency International. Bonsoir Lucas Olo Fernandez.
Bonsoir.
Professeur Saint-Augustin Mwendambali, il est directeur général de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle OCEP en sigle. C'est une structure qui lutte contre la corruption et qui dépend du ministère de la fonction publique. Bonsoir, professeur Saint-Augustin Mwendambali.
Bonsoir, Guy.
Et Michel Sommoin, il est économiste. Bonsoir, Michel Sommoin. On me dit qu'il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Beaucoup de réactions dans cette mission, parmi lesquelles Commanda Mutayo de Kindo Maniema. Pour lutter contre la corruption en RDC, il faut réformer la justice, lui doter des moyens nécessaires et enfin la débarrasser de toute interférence politique. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Kapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Transparency International a publié hier mardi l'indice des perceptions de corruption pour l'année qui s'achève. La RDC se situe à la 154e position sur 177 pays classés. Les pays gagnent donc 6 places par rapport à l'indice 2012. Selon le rapport de Transparency, les pays perçus comme les moins corrompus de la planète sont le Danemark et la Nouvelle-Zélande qui occupent la tête du classement. À l'autre extrême, nous avons l'Afghanistan, la Corée du Nord et la Somalie qui sont considérés comme les nations les plus corrompues. Les résumés d'Axel Gontior rendu par Onésime Mukandila.
Les pays africains les mieux placés sont le Botswana, 30e, et le Cap-Vert, 41e. Les pays d'Afrique centrale sont plutôt mal classés. Le Cameroun ex-aequo avec la République centrafricaine occupe la 144e place. La RDC ex-aequo avec le Congo occupe la 154e place. Le Tchad occupe la 163e place et le Soudan l'avant-dernière place. Basé sur l'opinion des experts, l'indice mesure la perception de la corruption dans le secteur public dans différents pays à travers le monde. Il attribue le score nul aux pays perçu comme hautement corrompu et 100 à celui qui apparaît comme étant le plus transparent. Le rapport note qu'aucun pays classé n'a atteint un score parfait et s'inquiète de la propagation de la corruption. En effet, plus de 2/3 des pays classés ont obtenu moins de 50 points, ce qui les classe dans la fourchette des pays où la corruption est endémique. Reconnaître le problème de la corruption n'est qu'une étape, estime Transparency International, qui recommande aux dirigeants du monde de transformer les plaidoyers contre la corruption en actions concrètes.
Lucas Olo Fernandez, je rappelle que vous êtes coordinateur régional pour l'Afrique centrale des Transparency International. La RDC occupe la 154e position sur 177 pays classés. Et comment vous analysez ces classements?
En fait, le résultat de cette année montre que les résultats sont plus ou moins pareils à l'année passée. Donc nous, c'est quand on fait nos analyses, on se focalise surtout sur les scores. Ça veut dire les points que l'RDC a eu l'année passée et ce que les pays a réussi cette année. Et on peut clairement voir qu'il y a seulement un changement de seulement un point. Puisque l'année passée, c'était 21 sur 100 et cette année, c'est 22 sur 1. Même si dans l'index, il y a peut-être une avancée un peu importante, il faut reconnaître que c'est toujours un grand problème. Et en tout cas, il faut voir que le classement reste très très loin de ce que pouvait être désiré.
Oui, vous dites que ce classement veut dire que le résultat est pareil à celui de l'année passée, mais comment vous expliquez que la RDC a pu gagner 6 places dans un espace d'une année?
Oui, c'est en fait puisqu'il y a, il y a eu des autres pays qui ont même fait le pire, et ça leur a envoyé dans la dans le des places plus en arrière dans le classement. Et aussi en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu quelques démarches qui ont été positives, qui disent que en fait il y a des choses qui se sont faites, mais à notre avis, il faut toujours garder à l'esprit que c'est toujours un problème, et un problème très grave.
Monsieur Lucas Olo Ferrandez, vous êtes-vous basé sur quels critères pour établir ces classements?
En fait, le classement se base sur des indices ou de recherches faites par des autres organisations internationales comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. Et ce sont des études sur la gouvernance du pays, sur les risques dans politiques de chaque pays, et quelles sont les institutions qui travaillent dans ces pays. Donc, tous ces indices sont mis dans un même dans cet indice. Et le résultat donne la perception de la corruption. En fait, les indices de ce que je parle sont des indices faits par des experts qui travaillent plus ou moins en contact avec les pays. Et pour les cas de l'RDC et même pour les cas de l'Afrique centrale, il y a les données coïncident avec la réalité.
Oui, Transparency International établit chaque année un indice de perception de la corruption au sein des partis politiques, de la police, du système judiciaire et des services publics dans tous les pays. Et quelles sont les informations que vous détenez des partis politiques en RDC, de la police et du système judiciaire?
Nous, ce qu'on fait chaque année, ce qu'on a fait cette année, en fait, chaque deux ans, on publie ce qu'on appelle le baromètre mondial de la corruption. Et ça, c'est en fait un peu différent à l'indice de perception de la corruption. Ça, ce sont des enquêtes faites aux populations de chaque pays. Et on n'a pas pu le faire dans tous les pays, mais au moins pour cette année, on l'a fait pour l'RDC. Et on a trouvé que, par exemple, le système judiciaire est aperçu pour la population comme l'institution la plus corrompue, mais les partis politiques ou le Parlement en soi est aussi perçu par près de 76% de personnes inquiétées comme des institutions qui sont corrompues en une certaine façon.
Et donc, ce sont tous ces renseignements, n'est-ce pas, qui vous poussent à affirmer que la RDC doit occuper la 154e place?
Voilà, c'est pour cela que je voulais faire la différence. Le baromètre qu'on a fait, c'est une enquête qu'on fait aux populations. L'indice de perception, c'est l'opinion des experts. Et c'est clair qu'il y a une coïncidence très claire par rapport à ce que les experts pensent, puisque de temps en temps, même on le reconnaît, Transparency International est critiqué pour peut-être avoir un point de vue extérieur et peut-être pas si lié à la réalité. Mais quand on fait des enquêtes comme ça, l'opinion des populations montre qu'en fait ce qu'on avait dit dans l'IPC, c'est la réalité.
Alors vous dites que selon vos enquêtes, le système judiciaire en RDC est perçu par l'opinion publique comme étant l'institution la plus corrompue en RDC, et vous dites que les partis politiques sont des institutions aussi corrompues. Et pourtant, la RDC a fourni des efforts sur le plan normatif. Il y a les codes miniers, il y a les codes forestiers, la création de l'observatoire de l'éthique professionnelle, la loi anti-corruption et la loi contre le blanchiment des capitaux. Pourquoi vous ne prenez pas en compte toutes ces initiatives prises par les gouvernements congolais pour lutter contre la corruption?
En fait, c'est bien que vous me posez la question, puisque en fait, ce qui se passe exactement, c'est ça. C'est que même, c'est pas seulement en RDC, ça se passe en beaucoup de pays africains dans lesquels on a des instruments, on a même des institutions qui sont mises en place mais il n'y a pas d'application de ces instruments. Il n'y a pas d'institutions vraiment indépendantes qui peuvent mener cette lutte jusqu'au bout. Et c'est le problème. C'est le problème. On a beaucoup de lois, on a beaucoup d'institutions, on a même des déclarations, mais en fait, ce que démontre cette enquête aux populations, c'est que près de la moitié des personnes qui ont été inquiétées ont dû payer de pots de vin pour accéder aux services. Et c'est pire quand on parle des services de santé ou services de l'éducation. C'est là où que c'est même grave. Et le système judiciaire, c'est clé pour la lutte contre la corruption. Mais pour la lutte contre la pauvreté, c'est même c'est peut-être, on peut même dire que c'est plus prioritaire que la lutte contre la corruption. Ça ne devrait pas se passer. Et pour arrêter la pauvreté, il faut vraiment adresser la corruption.
Alors, dans ce rapport, vous concluez que la RDC gagne 6 places comparativement à l'indice 2012. Et donc, vous reconnaissez qu'il y a des efforts, n'est-ce pas, qui ont été fournis de la part de la RDC, même s'ils ne sont pas suffisants.
Exactement. Il y a des efforts qui ont été faits et puis les experts ont considéré, comme je le disais avant, que ces efforts vont dans une bonne voie. Mais à notre avis, et je crois qu'à l'avis de la plupart des gens, être classé dans cette place, c'est toujours pas une bonne nouvelle.
Oui, professeur Saint-Augustin Mounambali, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle au CEP en sigle. C'est une structure qui lutte contre la corruption et qui dépend du ministère de la fonction publique. Comment vous analysez ces rapports de Transparency International?
Merci bien pour la pertinence de la question. Moi, je vous dirais que ces rapports de Transparency International m'apportait un peu de satisfaction, d'autant plus que j'ai suivi le classement des Transparency International depuis 2001, depuis que je suis à l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle. Je sais qu'en ce début, la RDC, vers les années 2002, avait commencé à être classée avec un coefficient de pondération sur 10 points, de 1 point sur 8, c'était en 2002, elle était à la 113e place sur 133 pays interrogés. L'année suivante, la RDC avait 2.2, c'est-à-dire 2003. Elle occupait ainsi la 134e place sur 147 pays interrogés, classés. Et vers l'année 2004, la RDC a connu une petite chute, une régression, due effectivement au problème de Sun City. Les institutions des transitions ont été mises en place et à ce moment-là, il y a eu un peu des flous dans le paysage politique de la RDC. Et à partir de ce moment-là, la RDC a commencé presque sa descente en enfer. Et le passé de 2 points à 2 points, à 1.9, à 1.7 en 2008, avec la guerre à l'est du pays, pour pouvoir conquérir encore 0,2 points en 2009, où elle était 172e sur 180 pays alignés. Et à partir de cette date, 2009, il y a eu la convocation du Forum national sur la lutte contre la corruption. L'RDC a fait un petit bond de 1,9 points à 2 points en 2010. En 2011, il a répété la même note. Et voici qu'en 2012, elle a majoré sa performance de 1 point. Donc, il est passé de 2 à 2.1. Et voici maintenant que l'RDC vient de passer de 2.1 à 2.2. Ce que j'aimerais d'abord dire et attirer l'attention des auditeurs ici est que les places importent peu dans ce classement des Transparency International, mais ce qui compte plus, c'est la note obtenue. Alors, j'ai attendu tout à l'heure les pertinentes questions que vous avez posées à notre invité.
Lucas.
celle de savoir pourquoi est-ce que la RDC n'a pas amélioré sa cotation en dépit des efforts consentis par les gouvernements. Il est tout à fait évident, après avoir organisé le forum national, décrété l'opération tolérance zéro et aller jusqu'à arrêter, à révoquer des fonctionnaires de l'État, des magistrats, de leurs postes et des responsabilités, on s'attendait à ce que la RDC puisse quand même faire un bond en avant. Nous connaissons un PC, là où se trouve la critique, effectivement, l'indice de perception de transparence internationale. Le pays en guerre sont toujours en bas de l'échelle. Ça, nous le savons. Là où il y a la guerre, là où il y a déficit de démocratie, ce sont des pays qui ne sont pas suffisamment bien cotés. Et c'est là où, quand nous assistons à des symposiums, nous arrivons à nous poser des questions de savoir si, après tout, ces pays sont corrompus à la suite de la guerre. Il faut connaître d'abord les causes profondes de cette guerre. Et ensuite, savoir s'il y a des corrompus, si nous sommes des corrompus, c'est que le corrupteur vient de quelque part. Et il ne peut venir que d'autres cieux, notamment en Occident.
Donc, professeur, plutôt Saint-Augustin Mwenambali, en fait, la guerre devient un facteur qu'on utilise pour justifier certaines choses. Pourquoi, chaque fois, quand il y a des choses qui ne marchent pas, on a tendance à évoquer la situation de guerre?
Bon, il est vrai, en période de guerre, l'État est presque paralysé. Ça, nous devons le reconnaître. Et que les contrôles citoyens ne s'exercent pas normalement. Et parfois, quand il y a des états d'exception, ce sont les militaires qui sont sur le terrain, les frontières deviennent poreuses. Et à ce moment-là, il y a des trafics libres. Il y a des transactions de corruption énormes. Vous l'avez remarqué à Goma, avec des avions qui atterrissaient sur l'aéroport de Goma, en provenant on ne sait pas de quel pays étranger, avec de passagers suspects à bord, pour venir transporter des lingots de diamants et les amener dans une destination inconnue. Donc la période de guerre, il est vrai, ne favorise pas les contrôles, et c'est là où l'hypothèse des transparences internationales est d'avance peut-être soutenue, en disant quand il y a la période de guerre, on les contrôle, les mécanismes de contrôle ne sont pas en jeu, c'est tout à fait évident qu'il y ait des pratiques de corruption ainsi de suite. Mais regardez bien le phénomène. Si la région de l'Est a été en difficulté suite à cette guerre qui vient de se terminer à peine. Mais on ne peut pas généraliser cette situation pour dire toute la République de moitié du Congo est en situation de guerre, pour qu'on dise effectivement partout ce qui se passe à Goma, c'est ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe à Lubumbashi. Non, je crois que là, il y a un peu de subjectivité au niveau des critères d'appréciation de transparence internationale. Il y a un autre élément. Vous regarderez en bas de l'échelle. Vous avez la Somalie. C'est tout dans un état de conflit presque permanent. Vous regardez le cas des Soudan. Et vous pouvez avancer des pays là où il y a la guerre. C'est toujours le même phénomène. On dit absence de démocratie. Il y a la guerre parce qu'il y a absence de démocratie. Et quand il n'y a pas de démocratie, il est vrai, les portes sont ouvertes pour faire la corruption. Bon, c'est un critère qui est transparence, puis aligné, et qui semble être fondé, mais qui souffre un peu par une certaine, je dirais, une certaine précipitation dans les analyses. Oui. Il y a un autre troisième élément que j'aurais souhaité soulever. On utilise les ONG locales pour coter, c'est une bonne chose. On peut utiliser également les partenaires en développement. Ils peuvent donner des appréciations sur la situation des corruptions dans le pays. Mais malheureusement, il arrive des fois que ces partenaires soient compromis aussi dans les transactions des corruptions. Et là, je crois que l'équation risque d'être faussée. Nous, par rapport aux efforts que nous avons fournis, doté d'une stratégie nationale de lutte contre. D'abord un forum. On n'a pas accepté une structure imposée par l'Occident. Nous avons dit, nous allons légitimer notre stratégie de lutte contre la corruption. Il faut que les peuples congolais puissent avoir une compréhension commune, une perception commune du phénomène de la corruption, en commençant par la vulgarisation. Nous avons vulgarisé auprès des enseignants, vulgarisé auprès même des membres du gouvernement. Nous avons vulgarisé toutes les 17 catégories socioprofessionnelles des agents publics de l'État. Merci. Mais malheureusement, on a vu, malgré ces efforts, malgré également les projets de loi anticorruption que nous avons, nous sommes toujours presque parmi les cinq derniers. Merci. Et ça ne nous honorait pas.
Merci. Nous n'arrivons toujours pas à avoir Michel Somoué à la place. C'est bienvenu Marie Bakoumania, qui est directeur de la rédaction en charge de l'économie et de l'investigation au groupe de presse Mediaset. Bonsoir, bienvenue Marie Bakoumania.
Oui, bonsoir.
Comment analysez-vous ces rapports de Transparency International qui classent la RDC à la 154e place sur 177 pays classés? Voilà, apparemment on a un problème avec nos lignes téléphoniques. Voilà. Oui, professeur Mouenabali, on peut continuer avec vous. Quelles sont en fait la fraude fiscale, l'évasion fiscale, les coulages des recettes publiques, les trafics d'influence et les interférences dans la justice? C'est encore des antivaleurs, n'est-ce pas, qui reflètent les niveaux atteints par la corruption en RDC?
Nous en sommes d'accord et conscients, c'est pour cela que vous avez appris même l'expression du coulage des recettes et le flux financier. Nous sommes conscients qu'il y a encore des efforts à fournir, mais ce qu'il faut reconnaître, si nous avons stabilisé les cadres macroéconomiques, et le gouvernement l'a bien fait, c'est qu'il y a quand même un début de solutionnement sur le terrain. Si aujourd'hui nous disons que nos minerais commencent à produire les effets escomptés, c'est qu'il y a également un effort avec les codes miniers, et nous avons dit il y a plusieurs codes qui sont en élaboration pour le moment pour permettre de mieux faire. Donc je dis, la corruption c'est un phénomène transfrontalier qui n'épargne aucun pays du monde. Il est vrai que chez nous, nous sommes encore un jeune pays, nous sommes en apprentissage de la démocratie, il est vrai, nous ne sommes pas encore mûrs, et c'est là encore Transparency pêche, puisque vous le remarquerez très bien dans son classement. Le vieux pays, la vieille démocratie du monde, occupe la première place. Tandis que là où il y a encore un début d'apprentissage de la démocratie, on occupe toujours presque les dernières places. Et ici, les critères paraissent un peu subjectifs. Merci. Subjectifs et pourquoi? Regardez, on nous aligne, on fait un classement avec deux pays qui ont une certaine expérience, nantis d'expérience en la matière, et vous faites un classement avec le pays qui vient à peine. J'aurais souhaité que ce classement puisse se faire parfois par catégorie. Et ça, c'est une appréciation que j'aurais souhaité soumettre aux experts des Transparency International.
Merci. La réalisation me fait signe que bienvenue Marie Bakoumania est là. Bienvenue Marie Bakoumania, bonsoir.
Bonsoir, chers confrères.
Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction en charge de l'économie et de l'investigation au groupe de presse Mediaset. Comment vous analysez ces rapports des Transparency International?
Oui, déjà que l'on puisse gagner quelques étapes, c'est une bonne chose, même si sous le plan de la qualité, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à redire. Mais nous pensons que déjà, les efforts qui sont fournis vont dans le sens de garantir plus de transparence et par ricochet, de garantir plus de revenus qui rentrent effectivement dans les caisses de l'État, ce qui est une bonne chose. Mais ce que je n'ai pas accepté par rapport à l'intervenant qui m'a précédé, c'est de dire que la guerre peut tout justifier. La guerre pourrait tout justifier. À mon humble avis, la guerre a frappé une partie du territoire national. Cela n'exclut pas que l'autre partie qui n'est pas frappée par la guerre puisse observer une grande transparence en matière de paiement, en matière d'exportation. Vous vous souviendrez, il n'y a pas longtemps, le pays a été exclu. Le programme avec le Fonds monétaire international a été suspendu pour la simple raison qu'il n'y avait pas suffisamment de transparence dans le secteur des ressources naturelles. Ce sont des comportements pareils qui peuvent nuire à l'image de la République, qui peuvent également nuire à ce que le pays ne soit pas classé en ordre utile par rapport à des classements tels que Transparency International. On y a adhéré librement, on doit fournir des efforts pour, à mon sens, respecter le cahier de charge ad hoc et donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'il y ait suffisamment de transparence. De toutes les manières, qui en est bénéficiaire? C'est nous-mêmes qui en sommes bénéficiaires. Les bénéficiaires, ce ne sont pas de ceux qui ont organisé ces structures comme Transparency International. Les bénéficiaires sont les populations congolaises. Les bénéficiaires sont les dirigeants congolais qui ont maintenant des tableaux de bord suffisamment clairs, des tableaux de bord aux standards internationaux qui permettent de gérer le pays de manière conséquente des manières conséquentes et de gérer les ressources générées par les trésors publics de manière efficiente. Ce sont des exercices certes difficiles pour des États comme les nôtres, des jeunes États comme les nôtres, mais à 50 ans déjà, en mon sens, je pense que on ne devrait plus recourir à de telles indications pour améliorer notre gestion. L'appareil judiciaire, à mon sens aussi, doit avoir sa part de responsabilité. Il ne suffit pas d'opérer une mise en place où l'on a des procureurs généraux qui ne mènent aucune investigation connue, chaque fois que des révélations, des détournements sont faites. Nous avons des procureurs généraux qui davantage tournent le pouce plutôt que de plaquer les infractions. Ce sont là des choses, à mon sens, qu'on peut améliorer au fur et à mesure.
Bienvenue Marie Bakoumania. Dans ces rapports de Transparency International, il est dit que pour mesurer la perception de la corruption, l'indice se base sur l'opinion des experts. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut garantir l'impartialité du travail de ces experts? Vous avez suivi le professeur Mwendambali qui estime qu'à certains égards, les critères sur lesquels se base Transparency International sont subjectifs.
Bon, écoutez, ces critères peuvent être subjectifs, je ne refuse pas, mais à partir du moment où on y a adhéré, à partir du moment où, en toute souveraineté, on a accepté d'être coaché, d'être coté également par rapport à ces mêmes critères, on n'a plus de choix, on est lié. En relation internationale, lorsque vous adhérez à des traités, vous êtes lié, vous avez même l'obligation d'aliéner une partie de votre souveraineté. La RDC a adhéré librement à toutes ces instances, Transparency International, ITE et autres. Nous avons adhéré pour que nous puissions recouvrer une certaine crédibilité sur le plan international. Nous devons accepter humblement que nous avons perdu un peu de notre superbe parce que nous avons mal géré nos propres ressources, parce que nous avons mal géré le peu d'argent qui rentre effectivement dans le trésor public, parce que nous avons mal géré les différents marchés que nous avons accordés aux uns et aux autres en toute opacité des différents marchés où nous avons opéré des bradages. Lorsqu'on est dans ces dimensions-là, on doit se remettre en question, et le fait de se remettre en question, on doit s'incliner lorsque des verdicts comme des classements tels que celui-là est édicté, lorsqu'ils sont publiés, on est plutôt obligé d'améliorer, de tenir compte de ce qui n'a pas marché afin d'apporter des améliorations nécessaires, plutôt que de se justifier. Parce que lorsqu'on se justifie, on ne fournira pas d'efforts pour améliorer. Lorsqu'on se justifie, ça veut dire que le peu de résultats qu'on a obtenus, on se plaît à rester dans ces résultats. Et pourtant, lorsqu'on a accepté librement d'adhérer dans ces structures, on doit prendre en compte les observations qui sont faites, même si elles sont objectives. Pourquoi est-ce qu'elles seraient objectives seulement, elles seraient subjectives seulement lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo, et lorsqu'ils le font pour les autres États? Et le jour qu'ils vont bien nous coter, est-ce que nous prendrons également la liberté de dire que nous avons été bien cotés, mais c'était subjectif? C'est ça là, à mon sens, des éléments d'appréciation qui peuvent nous permettre de faire mieux et de faire davantage mieux.
Bienvenue Marie Bakoumania. La RDC gagne 6 places dans un espace d'une année. N'est-ce pas là une évolution positive? Vous ne pensez pas qu'avec ces quelques efforts que la RDC ne devait pas mériter la 154e place?
Non, je pense que le professeur a été un peu plus explicite là-dessus. Le plus important, c'est ne pas gagner monter des escaliers. Le plus important, c'est la qualité de la cotation. Il faut plutôt se battre pour que l'on puisse améliorer la qualité de notre cotation. Et lorsque nous aurons amélioré la qualité de notre cotation, en ce moment-là, nous pouvons nous réjouir d'avoir franchi des étapes. Moi, je pense que être le dernier ou être l'avant-dernier ou encore être le premier ne suffit pas. Il faut travailler dans le sens de l'amélioration de la qualité de la cotation.
Monsieur Lucas Olo Fernandez, vous avez suivi le professeur Mwendambali qui estime que les critères sur lesquels s'est basé Transparency International, à certains points de vue, sont des critères subjectifs.
Je voulais réagir par rapport à ça, parce que on peut critiquer l'indice, on peut dire ce qu'on veut de l'indice, on peut dire que c'est un instrument pas suffisant pour analyser l'état de la corruption. Mais est-ce qu'on est déjà d'accord dans le fait qu'il y a un problème de corruption qui doit être adressé? Et c'est la raison pour laquelle on lève la voix. Ce n'est que ça. Et si le professeur est d'accord avec ça, on peut même se débarrasser de l'indice. Mais on doit travailler sur pour combattre la corruption dans tous les pays. Comme je le disais avant, cette année on a fait une enquête qui demande aux populations, aux citoyens, qu'est-ce qu'ils pensent, quel est leur avis autour de la corruption. Et on peut voir que près de 80% de la population a dit avoir ou pense que la situation est pire que dans les années précédentes. Et il y a beaucoup des institutions dans lesquelles pour accéder aux services, il faut payer par rapport à la situation de guerre, bien sûr qu'on la connaît dans les autres pays, et c'est vrai que c'est un problème. Mais je crois que quand on arrive à avoir la paix dans quelques pays, les dirigeants oublient souvent qu'il faut adresser les problèmes de corruption, puisque la paix ne va pas jamais être soutenable si on n'adresse pas les problèmes de corruption. S'il n'adresse pas le problème de corruption, dans 2 ou 3 ans, on sera dans le même... On va retomber dans le même problème. Et ça, on le voit ailleurs. Et on craint que ça peut se passer aussi dans les pays qui arrivent à avoir la paix. Et quant aux questions par rapport aux pays occidentaux, c'est eux qui ont des compagnies qui bénéficient de ressources naturelles des pays africains. C'est clair. Nous, on se bat aussi à Transparency International pour que les lois de transparence aux États-Unis, par exemple, avec la loi Dodd-Frank, les compagnies publient tout ce qu'ils font au niveau de financement, puisqu'il y a de temps en temps, on a bien même vu des compagnies qui ont été sanctionnées aux États-Unis, en Europe, pour payer au gouvernement ailleurs et en Afrique. Et nous, on condamne ça et on travaille pour que ça se suit dans les tribunaux ailleurs. Donc, comme je disais, en tout cas, c'est que à notre avis est clair et que si on est d'accord qu'il y a un vrai problème de corruption, on doit travailler contre ça.
Merci. La deuxième partie de notre émission, que faut-il pour renforcer la lutte contre la corruption en RDC? Monsieur Lucas Olo Fernandez, je rappelle que vous êtes coordinateur régional pour l'Afrique centrale des Transparency International. Nous allons suivre pour vous cette réaction qui vient de Isiro, en province orientale.
Maître Jean-Pierre Goumenote, à Isiro, province orientale. En RD Congo, la corruption est devenue monnaie courante. Elle a réussi à paralyser toutes les actions de développement et de la révolution de la modernité. Elle est à la base de la misère dont souffrent des millions de Congolais, car elle protège et entretient l'impunité. La seule façon de lutter efficacement contre ce fléau, c'est de commencer à traduire en justice les amis de la corruption pour qu'ils subissent la rigueur de la loi, car un simple discours ne fera absolument rien contre la corruption.
Monsieur Lucas, votre réaction?
Comme je le disais avant, le système judiciaire, c'est une des institutions qui est vraiment considérée corrompue dans l'RDC, et ça coïncide avec l'avis des citoyens. Et j'espère bien que ça s'est bien noté par les dirigeants et les institutions qui doivent lutter contre la corruption dans ces pays. Et nous, à notre avis, on a toujours demandé, on demande toujours l'ouverture de pays pour adresser ces problèmes. Être plus transparent, gérer la chose publique d'une manière que la redevabilité de l'institution soit claire, et aussi pourquoi pas. La société civile doit être partie de cette démarche.
Merci, professeur Saint-Augustin Mouindambali. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle au CEPINSIGL. C'est une structure qui lutte contre la corruption et qui dépend du ministère de la fonction publique. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu, au sud Kivu.
Godefroy Wakianga, à partir de Bukavu, province du Sud Kivu. Pour éradiquer cette corruption en RDC, le gouvernement congolais devrait commencer en amont à lutter contre l'impunité, doit lancer cette campagne de lutte contre l'enrichissement illicite, prôner plus sur la méritocratie et sa mise en application, et en aval, augmenter les salaires des fonctionnaires.
Votre réaction, professeur?
Il est tout à fait normal qu'on ne peut pas lutter contre la corruption sans toutefois qu'il y ait des gens qui payent les effets de leur comportement. Là, je suis d'accord avec lui. Il faut réformer l'appareil judiciaire. Il faut que les magistrats surtout, parce que le problème de corruption n'est pas a priori le problème des institutions. C'est le problème d'hommes qui gèrent les institutions, à qui on confie les institutions. Vous n'allez pas dire c'est tout l'appareil judiciaire qui est malade, mais il y a des individus au sein de l'appareil judiciaire qui font ternir l'image de notre institution judiciaire. Ça, il faut le reconnaître.
Au-delà de l'appareil judiciaire, vous pensez qu'il est facile de combattre la corruption dans un contexte où la répartition des richesses continue à poser problème?
Ah oui, là, c'est le problème qui revient également aux autorités du pays dans la redistribution des richesses indépendamment effectivement des facteurs répressifs. Il faut regarder aussi les critères de bonne gouvernance. Il faut procéder par les répartitions des richesses, puisque la corruption, c'est quoi en principe? Elle a comme conséquence la création des inégalités sociales, l'injustice sociale, et ça, il faut condamner en commençant par une prise de conscience collective de la part des autorités comme de la part de la population, de pouvoir condamner d'une manière énergique les conséquences de la corruption. Ça, c'est concernant l'impunité. Alors, concernant le problème des déclarations de savoir, certes, il a raison, notre ami c'est Godefroy qui nous appelle du site Kivu. Voilà. Il a raison, c'est pour ça que le chef de l'État, dans son discours du 23 octobre dernier, il a insisté que le gouvernement doit présenter un délai raisonnable, un projet de loi portant sur déclaration des avoirs au niveau du Parlement. Je vous annonce ici que ce projet de loi est déjà déposé sur l'hôtel, au niveau de l'hôtel du Conseil des ministres, et que très prochainement, l'RDC sera doté, pas seulement d'un projet de loi fixant le régime des déclarations des avoirs, mais aussi d'un projet de loi qui modifie et complète le code pénal de 1940 dans son volet de répression de la corruption.
Lorsqu'on a évoqué les efforts qui sont fournis par la RDC sur le plan normatif, M. Lucas de Transparency International a dit que le défaut, c'est que c'est des lois, des bonnes lois, mais qui ne sont pas appliquées.
Le président a promis un grand changement. Ça, je crois. Et que il a dit personnellement à travers un adage assez simple, pour changer les Congos, il faut commencer par changer nous-mêmes. Et pour changer nous-mêmes, qui doit nous changer? Effectivement, une conscience collective existe, mais aussi il faut que l'autorité s'implique, qu'il exécute effectivement les promesses qu'il a promises, et c'est ce que nous attendons d'un moment à l'autre, nous y croyons fermement.
Professeur Mouindambali, vous êtes de l'OCEP, qui a comme vocation de lutter contre la corruption. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique?
Oui. Avoir les moyens, c'est une chose, mais avoir aussi les instruments, c'est un autre. Je vous dirais que nous sommes déjà équipés, dotés des instruments juridiques pour lutter contre la corruption. La RDC a signé et ratifié la 8e Convention des Nations Unies contre la corruption, le protocole de la SADC contre la corruption, également la Convention de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption. Les instruments, nous en avons. Les lois, bientôt, elles seront là à notre disposition. Il faudrait effectivement, et ça c'est le critère de base, pour lutter contre la corruption, il faut investir des moyens pour faire des investigations, parce que ce n'est pas facile d'investiguer en matière de corruption. Et pour prévenir effectivement cette difficulté, la contourner, nous avons cru introduire une notion de la non-prescription des infractions de corruption. Jusqu'à 30 ans, on va mettre l'infraction au frigo le jour où on découvre que réellement les preuves étaient établies, les indices étaient suffisants. Merci. Nous pouvons déclencher l'opération.
Bienvenue Marie Bakoumania, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction en charge de l'économie et de l'investigation au groupe de presse Mediaset. Que faut-il pour renforcer la lutte contre la corruption en RDC? Allô, bienvenue Marie Bakoumania. Voilà, apparemment nous avons encore des problèmes avec nos lignes téléphoniques. Lucas, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Mbujima et au Kassai Oriental.
Yazani Placid-Tiouk en Mbujima et au Kassai Oriental. La place qu'occupe la RDC aujourd'hui dans le Conseil des Nations sur le plan de la corruption prouve à suffisance que la bonne gouvernance n'est pas encore un atout dans le chef des gouvernants jusqu'au petit peuple, en passant par des mandataires publics, les politiciens et tant d'autres. Cependant, pour lutter contre la corruption, tous les Congolais doivent avoir l'amour pour tous, la conscience commune pour le bien-être commun et combattre l'esprit des gains faciles. Et aux gouvernants de lutter contre la corruption, promouvoir la justice sociale, la redistribution des richesses pour stimuler la bonne citoyenneté, car pas de vertu sans minimum de bonne vie.
Lucas Olo Fernandez, votre réaction par rapport à cette question?
C'est comme je dis, on a déjà parlé, c'est qu'on peut voir aussi dans nos enquêtes qu'on a fait, comme je disais, le baromètre mondial sur la corruption, il y a près de 70% de citoyens de l'RDC qui considèrent qu'ils veulent réagir, ils veulent donner des pas. Pour lutter contre la corruption, il serait disponible à prendre des actions contre la corruption. Ça veut dire qu'il y a, je crois qu'il faut aussi mettre en perspective quand on dit que la population n'est pas consciente ou des choses comme ça, puisque la corruption, c'est pas, on essaye en général de le lier à une question culturelle, et c'est pas du tout ça. Il faut clairement dire que dès qu'on considère qu'il y a un acte de corruption, on est tous d'accord que c'est un acte de corruption. Donc il faut le combattre.
Lucas,
et moi je crois que l'avis de notre invité par téléphone vient coïncide avec ça. Et en tout cas, il faut aussi ajouter que, comme le docteur le disait, il y a un problème des hommes, des personnes qui sont dans quelques institutions.
Lucas Olo Fernandez, je vais vous demander aussi de conclure.
Il faut aussi combattre ça.
Lucas Olo Fernandez, est-ce que vous pouvez déjà conclure?
Seulement pour conclure, je voulais seulement ajouter que en Afrique, on a un problème très grave qui est la pauvreté. Et pour lutter contre la pauvreté, il faut arrêter ceux qui sont corrompus.
Merci.
Il faut lutter contre l'impunité. Et je me réjouis que les personnes qui ont participé dans ces débats sont d'accord avec nous.
Merci.
En fait.
Merci. Bienvenue Marie Bakoumania. Que faut-il pour renforcer la lutte contre la corruption en RDC? Ça sera aussi votre conclusion.
Ben écoutez, Guimaté, il n'y a pas deux chemins. Quand on s'il faut combattre la corruption, il n'y a qu'une seule solution, c'est la sanction. Et c'est la sanction, il n'y a que la sanction. Et la sanction n'est possible que dans un espace où il y a une volonté réelle de sanctionner. Dans notre pays, la justice s'émeut difficilement, et même les mécanismes pour mettre en mouvement la justice sont tellement difficiles, et les acteurs eux-mêmes aussi refusent de se mettre en mouvement, même si on a des cas flagrants des corruptions, des cas avérés des corruptions qui sont mises à la place publique et qui ont même fait l'objet d'une clameur publique. Donc, tant qu'on n'aura pas décidé de sanctionner dans ce pays, la corruption se porterait toujours très bien. En deuxième lieu, et ce sera ma conclusion, comme vous l'avez demandé, en deuxième lieu, il faudrait que, comme le chef de l'État l'a dit, il mettrait en place un conseiller spécial en matière de corruption, il faudrait que ce monsieur ait des moyens de sa politique. Il faudrait qu'il ait le main libre.
Merci.
Il
ne
faudrait pas qu'il puisse...
Merci, bienvenue, professeur Monambali. Votre conclusion, un mot.
Le mot de la fin... Je fixe nos auditeurs, je fixe un rendez-vous à tous les auditeurs d'Okapi. Le 9 décembre, le gouvernement, en concertation avec les secteurs publics, privés et société civile, va procéder à la signature du pacte anticorruption en RDC.
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Bon suite de programme sur Radio Cap.